fait, l'histoire, c'est il y a des petits bonhommes bleus.
Ils vivent tous dans... Ils sont tout petits et ils vivent tous dans des petites maisons en forme de champignons.
Ils ont tous des caractères différents. Enfin, ils sont tous faits pour avoir quelque chose.
Bah, il y en a un qui fait plein d'inventions. Je sais plus comment il s'appelle.
Sinon, je me souviens plus de son nom, mais à chaque fois, enfin, il a une fleur dans les cheveux, dans son bonnet.
Il y a une seule fille qui a été créée par un sorcier très méchant.
Bah, ils sont souvent heureux, mais ils peuvent vite paniquer, on va dire.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. En quelle langue éternuez-vous ? Eh oui, on s'imagine que ce bruit de nez est spontané, naturel, universel. Mais c'est en fait une construction culturelle. On n'éternue pas pareil dans toutes les langues. En tout cas, le mot n'est pas le même à l'écrit. Ça donne « etchi » en coréen, « apsik » en polonais, « achi » en allemand et bien sûr « achum » en français. Quel joli mot tout rond. Si je vous parle de ça, c'est pas parce que mon nez me chatouille, mais parce que nous allons chez les Schtroumpfs ce dimanche dans Barbatruc. Quand j'étais petite, j'étais certaine que le nom de ces créatures était un éternuement déguisé et ça me faisait beaucoup rire. Plus grande, j'ai appris que les Schtroumpfs avaient un nom différent dans chaque langue. Los Pitufos en espagnol, The Smurf en anglais, y Puffy en italien et j'en passe. Un mot qui ne veut jamais rien dire et je trouve ça d'une beauté folle. Le succès de ces petits lutins bleus créés par Peyo est impressionnant et durable. Alors avis à la populace Schtroumpf, on va essayer de comprendre aujourd'hui pourquoi on les aime autant. Je vais vous dire, on a du pain sur la Schtroumpf. Soyez les bienvenus, on se raconte des histoires.
Barbatruc.
Dorothée Barba.
Sur France Inter.
Les Schtroumpfs ont été inventés par Pierre Culliford, dit Peyo, en 1958, il y a 63 ans. Nin Culliford mettait les couleurs dans ses bandes dessinées, tâche ô combien importante. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans ce studio leur fille, Véronique Culliford. Bonjour.
Bonjour Dorothée.
Bienvenue à vous, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes venue de Belgique pour nous voir. Vous êtes la gardienne du temple, ça vous va comme présentation ?
J'adore, parce que ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. C'est vraiment mon rôle premier, c'est gardienne du temple, faire en sorte que les droits soient bien respectés. Oui.
Et quel temple, hein ? Les Schtroumpfs, ce sont des bandes dessinées, 38 tomes traduits dans toutes les langues, 50 millions d'albums vendus, mais aussi des bonbons, des jouets, des figurines, des films, des dessins animés. Et ils sont de retour hein, récemment à la télévision, une nouvelle série d'animation en 3D diffusée sur TF1 le dimanche matin. Depuis la mort de Peyo en 1992, plusieurs dessinateurs se sont succédés pour que vivent les Schtroumpfs. Ils ont encore un bel avenir devant eux, Véronique Culliford.
Ils ont un avenir merveilleux devant eux. Ça ne va jamais s'arrêter.
Ça ne va jamais s'arrêter.
Non, tant qu'on s'en occupe et qu'on est consciencieux à leur sujet et qu'on les protège, ils peuvent perdurer ad vitam aeternam.
Et mon deuxième invité, justement, est un dessinateur qui s'est prêté au jeu il y a quelques années. Un grand nom de la bande dessinée. Bonjour Derib.
Oui, bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous depuis la Suisse, Derib. Vous êtes le créateur de Yakari, le petit indien, qui méritera lui aussi une émission à lui tout seul, très bientôt. On vous doit également Buddy Langway. C'est une série de BD western. Oui. Vous dessinez les chevaux comme personne, Derib. Et vous êtes passé dans votre jeunesse par le studio Peyo. Vous parlez Schtroumpf couramment?
Je parlais Schtroumpf couramment, mais vous savez, à force de les avoir dessinés, il y a un moment donné où on a un peu une over-Schtroumpf, alors on passe à autre chose.
Vous avez collaboré sur un album qui est l'un de mes préférés, je dois dire, le Schtroumpfissime, publié chez Dupuis,
absolument.
Tome 2. Hein, depuis le tome 14, les Schtroumpfs ont changé de crèmerie, ils sont publiés chez au Lombard. Le Schtroumpfissime, voilà, c'est l'histoire d'un Schtroumpf qui veut devenir le roi des Schtroumpfs et ça tourne mal. Voilà qui fait écho aux élections à venir en France, hein, Derib.
Oui, c'est ça. Mais je crois que Peyo était un voyant qui était en avance sur son temps. Et il y a pas mal d'auteurs de bandes dessinées qui ont eu cette faculté-là. Hergé avec On a marché sur la Lune, Objectif Lune. Je pense que c'est un des rôles des auteurs d'être disponible à une ouverture potentielle sur le temps.
Dans Les Schtroumpfissimes, il y a cette phrase que j'adore, Véronique Culliford. C'est le grand Schtroumpf qui dit à tout le monde « Vous devriez avoir honte, vous vous êtes comportés comme des humains ».
Je suis bien d'accord avec ce que le grand Schtroumpf a dit.
C'est votre préféré, vous aussi, le Schtroumpfissime, Véronique?
C'est un de mes albums préférés. J'aime beaucoup aussi Schtroumpf vert et vert Schtroumpf, parce que c'est tellement une histoire belge, en plus. Mais ça pourrait être une histoire suisse, hein, n'est-ce pas, Claude? Parce que c'est vrai qu'il y a trois communautés en Suisse et trois façons différentes de parler.
Quatre.
En France aussi, quatre pardon.
Ouais.
Donc, ça parle de nouveau, cette histoire-là s'adresse de nouveau à tout le monde. Et mon père, forcément, a pensé à la Belgique en premier lieu.
Racontez-moi une histoire belge, s'il vous plaît, Véronique Culiford. La naissance des Schtroumpfs est une belle histoire. Comment ce nom a-t-il été inventé?
Once upon a time. Non, en fait, mes parents étaient grands copains avec Franquin et son épouse. Ils passaient régulièrement
Franquin, le papa de Gaston Lagaffe.
Le papa de Gaston Lagaffe, merci. Mmh. Ils passaient régulièrement des vacances ensemble et lors d'un déjeuner, mon père voulant la salière et ne trouvant plus ce mot, plutôt que de dire « passe-moi le truc, machin, brôle », il a dit « passe-moi le schtroumpf ». Et André a beaucoup rigolé, André Franquin, en disant « ben voilà ». Et il s'est pris au jeu, il a dit « je te schtroumpf le schtroumpf, quand tu auras fini de schtroumpfer, tu me re-schtroumpferas ». Ils ont schtroumpfé tout le repas. Et mon père a noté quand même ce nom sur le coin d'un petit carnet en disant « on ne sait jamais, un jour ça pourra me servir ». Et quand il a créé ses petits lutins bleus, ses petits elfes bleus, enfin, ils n'étaient pas bleus encore, mais les petits elfes, il dit, il faut leur donner un nom. Et il s'est souvenu de ce déjeuner, il a repris le nom et dit, bah, pourquoi pas Schtroumpf?
Vous êtes née la même année que les Schtroumpfs, je crois, Véronique Culiford.
Oui, je suis leur cadette de 3 semaines.
Ah, ils sont plus vieux que vous?
Ils sont plus vieux que moi, absolument.
Et ces petits personnages bleus ne sont pas les héros d'une bande dessinée au départ. Ils apparaissent dans le magazine Spirou au détour d'une aventure de Johan et Pirluit, BD signée de votre père, Peyo. Les deux héros de cette bande dessinée tombent par hasard sur un village qui est peuplé de lutins bleus. Et c'est face au succès de ces personnages secondaires que ça va donner lieu ensuite à une bande dessinée, les Schtroumpfs.
Tout à fait. Normalement, il ne devait être là que pour cette histoire de Jean et Pirluit, qui au départ s'appelait d'ailleurs La flûte à 6 trous. Et vu le succès de ces petits personnages bleus, bon, ils ont rebaptisé évidemment La flûte à 6 trous en Flûte à 6 schtroumpfs pour cet album de Jean. Mais le public a vraiment beaucoup écrit à mon père en demandant de continuer les histoires avec ces petits personnages. Et il s'est pris au jeu, il s'est dit pourquoi pas, c'est amusant, donc je vais continuer. Et ils ont pris vraiment le pas sur Jean et Pirluit.
De Rib, attention, question piège, vous n'avez pas le droit de tricher. Comment écrivez-vous Schtroumpf?
S-C-H-T-R-O-U-M-P-F-S. Les Schtroumpfs.
10 sur 10.
Très, très, très fort. Alors c'est vrai que ça ne veut rien dire dans aucune langue, Véronique Culiford?
Ça ne veut absolument rien dire. Sauf dans une langue où en allemand, on n'a pas pu employer le mot Schtroumpf. Et c'est peut-être l'origine du fait qu'on le traduise dans toutes les langues. Dans toutes les langues étrangères au français, c'est que Schtroumpf en allemand veut dire chaussettes. Ce sont des bas de femmes, en fait, des hauts bas. Donc, il était impossible d'appeler ces petits personnages bleus chaussettes. C'est vraiment.
Ça se discute, hein.
Je ne pense pas qu'ils auraient eu le succès escompté aujourd'hui. Donc, c'est parti de là. Et en fait, on s'est mis à traduire dans différentes langues parce qu'également, pour un anglophone, prononcer des ou des R, c'est absolument impossible aussi. Donc, voilà, il déménage à chaque frontière.
Vous êtes contente de toutes les traductions?
Ben oui, on est ravis de toutes les traductions. Et celle qui me tient le plus à cœur aussi, c'est celle de la traduction en chinois.
Pourquoi donc en chinois?
Parce que les Chinois, malheureusement, eux, n'ont pas cette chance, comme en français ou d'autres langues, de remplacer un mot par le mot schtroumpf ou de faire du verbe, donc de schtroumpfer, la schtroumpf qui schtroumpf le schtroumpf. Donc, comme ils n'ont pas cet avantage-là, ben, du coup, la traduction schtroumpf devait être différente. Ils l'ont traduit de manière très poétique. C'est l'âme Xinling en chinois, et cela veut dire petit esprit bleu.
Donc, c'est impossible de faire les mêmes blagues. Ils perdent un énorme point de l'humour schtroumpf, quand même, les lecteurs
et
les lectrices chinois.
C'est beaucoup plus romantique et plus doux, et chez nous, c'est beaucoup plus comique.
Elle vous plaît, la traduction chinoise de Rib?
Oui, bah je découvre ça, je savais pas. Et c'est vrai que ça doit être très intéressant de vivre toutes ces traductions-là. Moi, j'ai un avantage, c'est qu'Yakari ne veut rien dire et qu'il est traduit partout par Yakari.
Ça ne pose problème dans aucune langue, Yakari?
Non, aucune.
C'est facile à dire.
C'est toujours Yakari. C'était pas volontaire, mais ça a bien réussi.
Écoutons des enfants, si vous le voulez bien. Notre reporter Juliette Proutot a promené son micro dans les rues de Nantes. Première question évidente. À ton avis, pourquoi les Schtroumpfs sont-ils bleus?
Pour les différencier des autres et pour que. En fait, pour. Et comme. Enfin, pour créer un peu un nouvel univers, un nouveau monde, des nouveaux personnages un peu. Qu'on peut mettre dans les contes et dans les histoires.
Parce qu'il faut qu'ils se ressemblent des fois un peu.
S'ils étaient verts, ça aurait été un peu plus logique parce qu'ils pourraient se cacher de Gargamel
dans la forêt, un peu, mais après avec le blanc, ça...
Si, je pense que c'est parce que, pour différencier un peu des autres, c'est parce qu'il y a des animaux qui sont, par exemple, je prends l'exemple d'un poussin, c'est jaune, donc...
Nous, ce qu'on peut penser, c'est qu'en fait, la couleur, pour nous, ça nous paraît très bizarre de parler d'un schtroumpf rose, parce qu'en fait, nous, on est habitués à aux schtroumpfs bleus. Mais si de base les schtroumpfs auraient été orange par exemple, et bah nous en fait ce serait normal pour nous que ce soit des schtroumpfs orange et pas des schtroumpfs bleus.
Bleu, c'est vrai que c'est bien parce que c'est. Ils portent des bonnets phrygiens. Alors moi j'ai travaillé dessus mais. Ah, je crois que c'était le chapeau que portait Marianne.
Et voilà, c'est ça, le bonnet des Schtroumpfs ressemble à un bonnet phrygien, le couvre-chef de Marianne, symbole de la République française. Voilà pourquoi ils sont bleus, Véronique Culifort. Les Schtroumpfs sont un hommage belge à la France.
Probablement. Tout se passe dans la tête, finalement.
Allez, dites-nous vraiment, pourquoi est-ce qu'ils sont bleus?
Pourquoi est-ce qu'ils sont bleus? Parce que d'abord, il faut vous dire que c'est une vraie histoire de famille. Donc, maman aussi collaborait à l'œuvre de mon père en y mettant les couleurs. Et quand il a fallu donner une couleur à ses schtroumpfs, elle l'a fait par élimination. Justement, comme disait la petite fille ou le petit garçon, ils ne pouvaient pas être bruns ou verts parce que trop près de la nature. Et
c'est compliqué pour se cacher. Compliqué. Oh non, au contraire, ça aurait été mieux pour se cacher.
Oui, pour se cacher, mais dans les albums, c'est très difficile à dessiner. Ils ne pouvaient pas avoir couleur humaine, donc on enlève le jaune, on enlève le noir, on enlève le rose. Et ils ne pouvaient pas être rouges parce que c'était trop agressif. Donc, par élimination, maman a dit, ben, pourquoi pas bleu? Merci, maman.
Donc c'est juste ça.
C'est juste ça.
Par élimination.
Mais c'est énorme.
J'aime bien la réflexion de cet enfant sur le orange. On se serait habitué aussi au orange, c'est
Il
vrai.
Il a tout à fait
la
raison.
La terre est bleue comme une orange. On s'habitue à tout, c'est juste une question d'habitude.
Oui.
Alors je disais tout à l'heure, vous avez collaboré sur un album des Schtroumpfs, le Schtroumpfissime de Rib, mais vous avez surtout fait le décor, je crois, les châteaux notamment et les maisons des Schtroumpfs. Est-ce que vous dessinez aussi
les... Oui, j'ai fait le palais du Schtroumpfissime.
Voilà, le palais.
Donc j'ai fait tous les décors du Schtroumpfissime, j'ai passé à l'encre tous les Schtroumpfs. Et donc, Peyo me donnait des responsabilités de créer des ambiances au niveau des décors, dont le palais du Schtroumpfissime. Et puis, quand les dissidents vont se cacher dans la forêt, il y a aussi un village spécial. Et ça, ça m'amusait beaucoup. Et puis, toutes les scènes de nuit m'ont beaucoup amusé aussi, parce que ça crée des ambiances différentes de ce qui se passe de jour. Donc, pour moi, c'était extraordinaire de pouvoir participer au Schtroumpfissime. C'était une ouverture vers ce métier qui était formidable, avec quelqu'un comme Peyo qui est un raconteur extraordinaire. Donc j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à collaborer à cette histoire.
J'aime bien quand vous dites « j'ai passé tous les schtroumpfs à l'encre », je les imagine sous la douche.
Oui.
Le décor...
Mais vous savez que c'était très spécial, le trait du schtroumpf, si on se trompe d'un millimètre, c'est plus un schtroumpf. Donc il faut vraiment apprendre à suivre exactement le trait que Peyo faisait au crayon. Il ne fallait pas trembler de la main et donc c'était un exercice très délicat, une difficulté permanente pour que tous les schtroumpfs se ressemblent.
Comment décririez-vous justement la silhouette des schtroumpfs?
Ben, c'est une silhouette très simple et encore une fois, il ne faut pas du tout la changer puisque sinon on ne le reconnaît pas. C'est un peu comme la tête de Tintin, il fallait quelque chose de très simple aussi, qui est très lisible et qui doit passer d'une case à l'autre, toujours dans la même perspective et ressembler. Un schtroumpf ne peut ressembler qu'à un schtroumpf. Donc, c'est, encore une fois, c'est très délicat.
Barbatruc, tous les dimanches à
17h.
Sur France Inter, avec Dorothée Barba.
D'amour sans amour, de pas beaucoup d'eau fraîche. Cœur toujours percé par ta flèche. Bang, 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 mes larmes un peu sèches. Ça tourne, ça tangue, mais j'ai gardé la pêche. Souviens-toi l'été dernier, tu as disparu. CDD, tu m'avais pas bien vu. Souviens-toi l'été dernier, l'amour est perdu.
cœur sous les vents, alertant le vent. Tu m'oublies sûrement. D'amour sans amour, de pas beaucoup d'eau fraîche, sans foi percée à jour, j'ai vendu la mèche. De l'âme, de sueur, de sang, ceci est mon corps. Si j'y t'accorde au fond, que j'étais hier encore. Souviens-toi l'été dernier, tu as disparu. Ce n'était qu'un CDD, je n'avais pas bien lu. Souviens-toi l'été dernier, l'amour est perdu. J'ai caché aux autorités que je t'avais perdu. Et pas que de vue, alerte enlèvement, alerte enlèvement, alerte enlèvement. Souviens-toi l'été dernier, alerte enlèvement. Souviens-toi l'été dernier.
Souviens-toi l'été dernier, c'était Benjamin Biolay, programmation musicale Jean-Baptiste Audibert. Anne-Sophie Dazar a préparé cette émission, Florian Dorimini est à la technique, réalisation Christophe Humbert, parmi eux se cache un schtroumpf grognon. On s'est installé au village des schtroumpfs cette semaine dans Barbatruc avec Véronique Culifort, la fille de Peyo, créateur de ces personnages cultes, et avec De Rib, dessinateur de bande dessinée passé par le studio Peyo, qui a pris son envol depuis, qui a créé Yakari et Buddy Longway notamment. C'est un peu l'amical francophone aujourd'hui Barbatruc, hein, parce que Véronique Culifort est belge, De Rib est suisse et moi je suis française et on chante tous les trois notre amour des schtroumpfs. Alors ils sont de retour à la télévision tous les dimanches matins.
Attends un peu, je viens d'avoir une idée schtroumpftastique.
Qu'est-ce qui se passe?
J'espère pour toi que c'est vraiment une urgence.
Oui, on ne va schtroumpfer la cloche que si c'est important, n'est-ce pas?
Mais c'est important, vous allez voir. Maintenant que nous sommes tous là, je vous présente le robot Nounou. Vous n'avez rien à craindre, le robot Nounou est inoffensif. Je l'ai inventé pour qu'il s'occupe du bébé schtroumpf.
Bébé schtroumpf?
Non, bébé schtroumpf.
Boulbo schtroumpf.
Ok, c'est pas grave, tu peux changer sa couche maintenant.
Oh! Le robot nounou est vraiment extraordinaire!
Schtroumpftaculaire!
Moi, j'aime pas les robots nounous.
Il peut repasser mes chaussettes.
Il sait faire la vaisselle.
Est-ce qu'il fait les massages de pieds?
Grâce à mon invention, nous n'aurons plus jamais à changer de bébé schtroumpf ni à le surveiller!
Le robot nounou, extrait de la nouvelle série d'animation Les Schtroumpfs, à voir en ce moment sur TF1 dans l'émission T'es fou, le dimanche matin à 8h15, des épisodes de 10 minutes chacun. Et c'est une série en 3D, Véronique Culifort. La 3D leur va bien à ces petits lutins tout bleus?
Ça leur va admirablement bien. Ils ont vraiment été prévus pour ça. Quand on a eu l'occasion de faire ce troisième film cinéma, Le Village des Filles, on s'est rendu compte avec l'animation qui avait été faite en 3D que les Schtroumpfs, en fait, waouh, ils s'apprêtent vraiment pour ce genre d'animation-là. Donc on en a profité pour un petit peu moderniser et refaire une nouvelle série avec les Schtroumpfs, et elle commence avec énormément de succès. Effectivement, on est très heureux.
Vous êtes attaché, j'imagine, à la volonté de ne pas trahir la mémoire de votre père, la mémoire de Peyo. À quoi cela tient-il d'être fidèle au créateur des Schtroumpfs?
Mais ça tient surtout, nous, on essaie vraiment de respecter l'ADN des Schtroumpfs. Le Schtroumpf peut être modernisé, donc il s'adapte à notre situation actuelle. D'ailleurs, dans le robot nounou, bah, c'est une nounou qui met le pampers au bébé Schtroumpf. On n'aurait pas imaginé dans les années 80 qu'un robot puisse faire des choses pareilles. Il y a le Schtroumpf à lunettes qui se promène sur une trottinette pseudo-électrique. Enfin, je veux dire qu'il y a toutes des choses qu'on emploie aujourd'hui, mais qui sont au goût du jour. Donc les Schtroumpfs ont toujours été au goût du jour, mais il faut garder et respecter l'ADN des Schtroumpfs, donc leurs vraies valeurs.
C'est toujours une tribu solidaire, optimiste et proche de la nature. On peut résumer les choses comme ça ?
Oui, voilà, tout à fait.
De Ribes, je disais que la 3D leur va bien. Je rappelle que vous êtes dessinateur et que vous avez travaillé à l'époque sur les décors, notamment des Schtroumpfs. Comment décrire le village des Schtroumpfs ? Ce sont des maisons absolument spectaculaires.
Oui, ben c'est des grands champignons. Donc, on travaillait sur des formes de champignons légèrement différentes pour que ce soit pas trop banal et pour que tout ne se ressemble pas. Mais déjà, entre la flûte à six schtroumpfs, le village, les schtroumpfs eux-mêmes et ensuite, par exemple, dans le schtroumpfissime, tout a beaucoup évolué. Les bonnets des schtroumpfs se sont diminués. Les schtroumpfs ont pris d'autres proportions aussi. Et puis, le village lui-même a changé et s'est étendu. Il a pris de l'ampleur, tandis que dans la flûte à six schtroumpfs, c'était un village assez petit et avec des champignons de taille vraiment très différente, si je me souviens bien.
Des maisons champignons. D'où vient cette idée, Véronique Culifort ?
Mais quand on voit les souches d'arbres, quand on voit la taille du schtroumpf et dans quel environnement il se promène, mais quels sont les endroits où il pourrait se cacher, c'est dans des champignons.
Ceci dit, il est censé être grand comme trois pommes. C'est un peu plus grand qu'un champignon, pardon d'être abat-joie.
Mais c'est vrai, oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Mais lors d'une interview de mon père, et j'en ai vu quelques-unes, il m'a semblé le voir assez étonné quand un journaliste lui a demandé « Mais au fond, quelle taille a un schtroumpf ?» Et je pense qu'il a dû répondre tout et n'importe quoi et dire « Voilà, ils sont hauts comme trois pommes » parce qu'il ne s'en est pas rendu compte.
Le plaisir de lire ou de regarder les schtroumpfs en BD ou en dessin animé, c'est aussi un plaisir dans l'inventaire. On aime passer en revue les schtroumpfs, repérer le farceur ou le grognon dans la troupe. Le grognon, c'est mon préféré, c'est celui qui n'aime rien. Juliette Proutot a demandé à des enfants de se souvenir des différentes sortes de schtroumpfs et au passage, lequel voudrais-tu être ?
Schtroumpf maladroit, schtroumpf forgeron.
Il y a un schtroumpf maladroit.
Du coup, il peut faire n'importe quoi.
La schtroumpfette,
il y en a un qui fait plein d'inventions, je sais plus comment il s'appelle. Schtroumpf, je sais plus quoi.
Il y en a un qui mesure la taille. Au moment, il a mesuré la taille du grand schtroumpf.
Il y a un schtroumpf gourmand, je crois aussi.
Schtroumpf farceur. Il offre des cadeaux, mais en fait, c'est des bombes qui explosent. À moitié des bombes. En fait, à l'intérieur, quand on l'ouvre, ça explose.
Sinon, il y a un schtroumpf, je me souviens plus de son nom, mais à chaque fois, il a une fleur dans les cheveux, dans son bonnet. À un moment, il a une ride sur le front et il a toujours un miroir, donc il se regarde dans son miroir et il dit « Ah, j'ai une ride !»
Schtroumpf endormi, je crois.
Si on est par exemple le grand schtroumpf, on peut faire des potions. Le grand schtroumpf, il a un bonnet rouge, tandis que tous les autres bonnet blanc.
Schtroumpf à lunettes, intelligent. Le schtroumpf costaud, le schtroumpf qui dit tout en noir, là, je sais pas comment il s'appelle. Le schtroumpf pâtissier, le schtroumpf bricoleur.
Moi, je crois que je serais le schtroumpf menuisier.
La schtroumpfette,
le schtroumpf bricoleur.
Moi, c'était plutôt l'idée d'être dans la forêt, dans des maisons champignons qui me tentaient pas trop, mais après, être la schtroumpfette...
Moi, je prendrais le plus simple, mais le schtroumpf heureux.
Moi, peut-être le grand schtroumpf. Sinon, c'est la vie heureuse, quoi. Donc, si on veut la vie heureuse, ce serait la vie schtroumpf, quoi.
Et c'était Dorothée, la seule, la vraie du club Dorothée qui chantait le générique des Schtroumpfs à l'époque. Dites-moi Véronique Culifort, ils sifflotent, ils ont chacun une caractéristique, un grognon, farceur ou costaud. Les Schtroumpfs sont-ils les cousins germains des sept nains de Blanche-Neige ?
Ils sont déjà plus nombreux, mais je pense que l'origine est en fait que mon père avait une grande admiration pour tout le monde de Walt Disney. Il a été projectionniste aussi en tout début de carrière. Donc il a juste après-guerre projeté plusieurs fois par jour de nombreux Walt Disney, dont Blanche-Neige. Donc je pense qu'il a été quand même fort impressionné et ça lui a servi d'idée pour quand il a créé ses petits elfes.
C'est un hommage discret aux sept nains, a priori.
À mon avis, oui. Plus que probablement.
La majorité des schtroumpfs sont interchangeables et identiques en réalité. Seulement une minorité d'entre eux ont une caractéristique de ribé. On l'oublie souvent, on s'imagine qu'ils sont tous quelque chose, hein, bricoleur, costaud ou grognon. En fait, ils se ressemblent tous et ils s'appellent tous pareil.
Oui, ben ils sont, comme je disais tout à l'heure, un schtroumpf ne peut ressembler qu'à un schtroumpf. C'est par des petits détails, une fleur, etc., qu'on les différencie. Puis la barbe du grand schtroumpf, bien évidemment.
Ouais, quand même.
Mais j'entends, bien évidemment, tous les personnages ont la même taille et le même comportement. Même si les caractères sont différents, au point de vue graphique, ils sont tous dessinés de la même manière.
Quel est votre schtroumpf préféré de Rib?
Ben moi, vu mon âge avancé, maintenant c'est le grand schtroumpf, bien entendu.
Alors quel âge a-t-il, le grand schtroumpf, Véronique Culifort?
Il aura 542 ans aux chanterelles.
Et les chanterelles?
Ah ben voilà.
Ben voilà.
Ça reste, c'est le mystère. Un autre champignon.
Ils sont tous très vieux, mais lui est encore plus vieux que les autres. Ça aussi, ça vient d'où, cette idée?
Je crois qu'il faut toujours quelqu'un qui rassemble ses petits jeunes, parce que c'est vrai que quand le grand schtroumpf parle de ses schtroumpfs, il dit mes petits jeunes, donc bon, il faut, lui, il a la sagesse, donc il peut leur apprendre plein de choses. Et c'est ce côté-là que mon père a voulu donner pour le grand schtroumpf, le rassembleur.
Ce serait plutôt leur instituteur, leur maître d'école, plutôt que leur président ou leur roi.
Oh oui, définitivement, oui.
Vous êtes d'accord avec ça, Derib?
Oui, ben c'est leur père, quoi. C'est le. Et je pense que Peyo se voyait en tant que grand schtroumpf par rapport à ses enfants, etc. Vous savez, partir de du sel qu'on appelle schtroumpf pour en arriver où on en est aujourd'hui, c'est quand même magique.
Et la recette secrète n'est pas dans le chaudron de Gargamel, a priori.
Certainement pas chez Gargamel.
Certainement pas.
Non. Même si on a besoin de Gargamel.
On va parler de Gargamel dans un instant. Voici Céleste sur France Inter.
I go to tonight, the face I tell it all to tonight. I just wanna hold you tonight. I was listening to love songs, no one listens anymore. I thought of who you were beneath the clothing that you wore. I tried to tune you out, but you could never be ignored. You could never be ignored. Shadow and the light beneath the door. And I want you all so badly. Oh, I've never wanted more. Oh, I've never wanted more. Tonight, tonight, you're the place I go to. Tonight, tonight, the face I tell it all to. Tonight, tonight, I just wanna hold you. Tonight, tonight.
Barba sur France Inter.
Et nous célébrons les Schtroumpfs cette semaine dans Barbatruc avec Véronique Culifort, la fille de Peyo, créateur de ces créatures magiques toutes bleues, et avec Derib, qui est dessinateur de bande dessinée, qui a collaboré il y a quelques années à peine, avec
quelques dizaines Peyo
en ligne avec nous depuis la Suisse. Derib, on va écouter un nouvel extrait des Schtroumpfs, extrait du dessin animé des années 80 qui passait à l'époque à la télévision, où l'on découvrait notamment que le Schtroumpf farceur et Gargamel étaient nés le même jour.
C'est cela même. C'est cela, un petit Schtroumpf de 90 degrés et le Schtroumpf est joué.
Ah là 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 là. Et voilà, quel beau gâteau d'anniversaire. C'est délicieux. Ce Schtroumpf farceur, c'est fou, il a son anniversaire le jour du carnaval. Ah non, qu'est-ce que c'est que ça?
C'est une surprise.
Ah non, je me demande ce qu'il a dit. Ah, j'aurais dû m'en douter, il m'a bien Schtroumpfé.
Oh, Schtroumpf farceur, tu as de la chance que ton anniversaire tombe le jour de carnaval.
Il n'y a pas beaucoup de Schtroumpfs qui ont de la chance, ça c'est vrai. Je Schtroumpf même qu'il n'y a personne d'autre dans la forêt. Alors, personne au monde n'a son anniversaire le jour du carnaval.
Schtroumpf farceur, je connais au moins quelqu'un.
Les anniversaires, père. Qui fête les anniversaires? Avoir son anniversaire le jour du carnaval, c'est ridicule. Comment maman a-t-elle pu faire une chose pareille? Il n'y aura pas de fête. Carnaval, Berk, les anniversaires, Berk, il y en a assez de ce bonheur, arrêtez, vous entendez? Assez! Oh, enfin, maman m'enverra peut-être un sachet de raisins secs, comme l'année dernière.
Ce Gargamel est absolument fascinant. Est-il aussi bête que méchant, à votre avis, Derib?
Oh, je crois qu'il est plus bête que méchant, au vu de ce qui se passe régulièrement avec lui. Mais je peux vous dire que moi, j'étais très heureuse de passer Gargamel à langue de Chine, ça me changeait des schtroumpfs.
Ah bah ouais. Une anecdote schtroumpfement savoureuse à présent. Celle qui va nous la raconter est écrivaine. Elle nous rejoint à l'instant. Bonjour Delphine de Vigan.
Bonjour.
Bienvenue, merci beaucoup de nous rejoindre, autrice d'une dizaine de romans, bien sûr, notamment « Rien ne s'oppose à la nuit » en 2011, « D'après une histoire vraie » 2015, « Les gratitudes » il y a 2 ans, et puis votre dernier roman « Les enfants sont rois » a été publié chez Gallimard il y a quelques semaines. Mais l'anecdote en question n'est pas dans l'un de vos livres, me semble-t-il. Comment avez-vous fêté vos 30 ans, Delphine de Vigan?
Oui, bah c'est un peu lointain, mais très joyeux. Effectivement, avec des amis très chers et de longue date, nous avons décidé de faire une fête Schtroumpf pour nos 30 ans. Donc, on était 4 copines et on a proposé à tous nos amis, soit à peu près une petite centaine de personnes, de recréer un village Schtroumpf et de passer une soirée Schtroumpf. Donc, on avait lancé l'invitation, pensant d'ailleurs que les gens ne seraient pas forcément tous très réceptifs. Mais en fait, on a vu arriver effectivement une petite centaine de Schtroumpfs, c'est-à-dire de copains et copines peints en bleu pour la plupart, déguisés en Schtroumpfs, tous les Schtroumpfs que vous avez évoqués au cours de cette émission. Schtroumpfettes. Nous-mêmes, on était évidemment 4 Schtroumpfettes. Et puis, il y a eu aussi quelques gargamels, bien sûr. J'ai une copine qui était arrivée en champignons. Et on avait reconstitué un village Schtroumpf. Donc, on s'y était pris quand même assez longtemps à l'avance pour recréer un village Schtroumpf, un décor de Schtroumpf, en fait. Donc voilà, on a passé une soirée totalement Schtroumpf. Les photos,
ça vaut cher.
Toujours beaucoup rire mes enfants, je dois dire.
Il se passe des choses en coulisses de la littérature française, hein, quand même.
Je vous applaudis des deux mains. C'est fantastique, ça, vraiment.
Et vous êtes une lectrice des Schtroumpfs, Delphine de Vigan?
Ben, je l'étais quand j'étais petite fille, donc c'était un souvenir qu'on partageait en fait, c'était quelque chose qu'on avait en commun, ça fait vraiment partie évidemment de la culture populaire et de notre culture commune, et on avait cherché en fait quelque chose qui pourrait rassembler tout le monde, qui pouvait parler à tout le monde, mais on avait été quand même, je me souviens, vraiment surprise de l'engouement et de la manière dont les amis s'étaient emparés de ce thème, parce que les fêtes déguisées, il y a toujours des récalcitrants, mais là, non, je dois dire que c'est ce souvenir de voir tout le monde peint en bleu, déjà, c'était assez dingue, parce qu'on avait fait des recherches pour voir quelle était la peinture la plus performante, celle qui durerait toute la soirée. De fait, les photos de fin de soirée sont assez drôles, parce que pas mal de gens avaient déteint. Mais voilà.
Faut pas trop pleurer, quoi.
Non, fallait pas pleurer ni trop danser. Et voilà, non, c'était très drôle. En plus, de ses amies étaient enceintes, très très enceintes. Donc c'était une schtroumpfette enceinte. Enfin bref, non, c'était. On a vraiment, on a beaucoup ri et
voilà.
Et,
en tout cas,
tous ces souvenirs.
Ce que je retiens de ce que vous dites, c'est que quand on cherche de l'universel, on en arrive au schtroumpf. On peut y penser pour le monde d'après, hein, quand les fêtes seront à nouveau autorisées. Déguisez-vous tous en schtroumpf.
Ah, succès garanti.
Est-ce que c'est le village retiré du monde, à votre avis, la communauté hors du temps qui séduit dans cet univers de Peyo, Delphine de Vigan?
Bah, aujourd'hui, oui, sans doute. À l'époque, ça ne résonnait pas forcément de la même manière. Mais oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut tout à fait le lire de cette manière.
Alors, il y a une seule schtroumpfette hein, au milieu de tous les schtroumpfs. Est-ce que ça vous dérange, vous, à titre personnel, en tant que lectrice?
Alors, je vous avoue que je me suis pas jamais posé cette question, en tout cas à l'époque où je le lisais. Non, alors aujourd'hui, sans doute un lecteur qui découvre les Schtroumpfs se fait cette remarque et c'est tant mieux. Mais voilà, il faut pas relire avec notre regard d'aujourd'hui des œuvres passées. Je pense que c'est un peu dommage.
Merci beaucoup Delphine de Vigan pour ce récit joyeux de soirée d'anniversaire. À très bientôt sur France Inter.
À bientôt, bonne soirée à tous.
Bonne soirée, au revoir. Les enfants sont rois, votre dernier roman est à lire chez Gallimard. Alors on va en venir justement à la Schtroumpfette. Notre reporter Juliette Proutot a demandé à des enfants de nous parler de ce personnage féminin emblématique. Écoutons d'abord comment est né ce personnage.
Ils ont sûrement un point faible. Réfléchissons. Couleur bleue. Haut comme trois pommes, un grand cœur. J'ai trouvé ! Leur grand cœur causera leur perte. Je vais leur envoyer une schtroumpfette. La schtroumpfette sera leur malédiction. Avec cette boule magique d'argile bleue, je vais créer la première schtroumpfette de l'histoire. Parfait. Commençons par trois larmes de crocodile, une cervelle de linotte, une grosse couche de parti pris, un doigt de tissu de mensonge, de la poudre de langue de vipère, et pour terminer, une pierre très dure qui sera le cœur. Ça a marché, ça a marché. Victoire, j'ai créé une schtroumpfette.
La caractéristique de la schtroumpfette, c'est un peu cueillir des fleurs.
Elle adore cueillir des fleurs un peu nulles.
Bah, c'est vrai qu'on peut s'ennuyer. Par exemple, moi, si je cueille des fleurs, bah, à un moment donné, je vais tout lâcher. Et puis, je m'ennuie.
J'ai plus envie de cueillir des fleurs, quoi.
Oui, d'être la seule fille dans le village. On voit pas d'autres filles donc de notre espèce. Du coup, bah, c'est pas très chouette.
C'est juste une fille, quoi.
Elle a pas de spécialité par rapport à tous les autres. La schtroumpfette avait dit au grand schtroumpf que c'était Gargamel qui l'avait créé et que du coup, bah, lui, il lui avait demandé d'être la schtroumpfette du village et elle avait accepté.
Bah, normalement, au début, on avait dit qu'elle était méchante, puis après, avec les pouvoirs
du chef,
et bah, il l'a remis gentil.
Ouais, parce qu'en fait, de base, c'était pas une schtroumpf, c'était une sorte de troll miniature et qu'en fait, qui n'avait aucune émotion et qui, en fait, sa seule émotion, un peu, c'était la colère et de tout ravager, c'était son seul but. Mais en fait, après, bah, comme le chef, un peu, il a aidé, en fait, elle est devenue une schtroumpf, mais pour de vrai, c'est pas une schtroumpf de base. Et c'est pour ça que de temps en temps, elle se sent différente, vu que. Pour de vrai, elle n'est pas une vraie schtroumpf.
La schtroumpfette, du coup, elle va leur dire d'arrêter vu qu'ils font n'importe quoi. Tandis qu'il faut, parce que la schtroumpfette, bah, elle préfère par exemple cueillir des fleurs. Bah, en même temps, des fois, elle peut aller faire des balades avec les autres et tout ça. Donc, ça, c'est pas très grave.
Mais après, en fait, on peut retrouver un peu dedans, comme si elle était un peu éloignée des autres juste parce que c'était la seule fille et que ça fait un peu, elle a moins de droits juste parce que c'est une fille.
Propos recueillis dans les parcs et dans les rues de Nantes par Juliette Proutot, notre reporter qui tient à remercier en particulier les petites Doriane et Angelina. Que retenez-vous de ces propos d'enfants sur la schtroumpfette de Ribes ?
Ben écoutez, moi personnellement, je n'étais plus chez Peyo quand il a créé la Schtroumpfette. J'étais de retour dans mon pays de montagneux. Et donc,
de retour en Suisse, donc.
De retour en Suisse, et je travaillais sur mes propres séries. Mais je crois savoir, peut-être je me trompe, mais je crois qu'il y a eu quelques petites discussions entre Nine et Pierre à propos de la Schtroumpfette.
C'est bien gentil de dire de petites discussions.
Alors attendez, avant qu'elle nous révèle toutes les coulisses familiales, dites-nous de Rib, est-ce que vous l'auriez mise, vous, la Schtroumpfette ? Est-ce que vous auriez laissé les Schtroumpfs entre eux ?
Écoutez, je laisse la responsabilité à Peyot. Mais vous savez, moi, j'ai rendu hommage aux femmes à travers beaucoup d'héroïnes, notamment Chinook, Epi Jo, etc. Donc, je reste à part.
Alors, Véronique Culifort, je veux les engueulades entre vos deux parents sur la naissance de ce personnage féminin.
Ah, mais ma mère n'a plus parlé à mon père pendant des semaines, enfin une semaine certainement, mais quand elle a lu la recette avec laquelle il a fait la Schtroumpfette, ah non, elle était outrée. Elle a dit, mais c'est pas possible. Non, il était furax.
C'est-à-dire que là, quand même, la punition pour le village des Schtroumpfs, c'est de leur envoyer une femme.
Voilà.
C'est catastrophique.
Et en plus, avec tout ce qu'on lui donne, la tête de la cervelle de tête de lino, de l'arme de crocodile, toutes les caractéristiques qui ont beaucoup fait rire mon père et Yvan Delporte, avec qui il co-scénarisait ses albums, mais qui n'a pas du tout fait rire ma mère.
Oui, mais alors, on parle aussi parfois aujourd'hui du syndrome de la Schtroumpfette. C'est l'idée que dans la fiction, les personnages masculins ont une caractéristique, en l'occurrence, voilà, les Schtroumpfs sont soit bricoleurs, soit maladroits, soit rêveurs. Et la Schtroumpfette, sa seule caractéristique, c'est d'être une femme. Et ça, c'est un peu désastreux pour les petites lectrices qui se diraient, ben voilà, soit on a une fille, soit on a une qualité.
Mais elles n'ont peut-être pas bien compris. Bah, voilà. En fait, la Schtroumpfette n'a pas une qualité comme chaque Schtroumpf a une qualité. Elle les a toutes.
Elle a toutes les qualités.
Voilà, donc ça c'est ma version.
Elle est à la fois maladroite et grognon, et rêveuse, bien et bricoleuse.
Sûr. Bien sûr, moi je suis grognon le matin, et je suis autrement à midi, et encore autrement le soir.
De Rib, que pensez-vous de la Schtroumpfette?
Bah écoutez, moi ce que j'aimerais juste dire, c'est parler de Nine. Je voudrais lui rendre hommage, parce que c'était ma maman belge. J'ai débarqué à Bruxelles à 19 ans et demi, j'ai fêté mes 20 ans avec eux. Et s'il n'y avait pas eu Nine, ça aurait été très difficile. Donc je pense que si Nine n'avait pas été là, le monde Schtroumpf ne serait pas ce qu'il est non plus. Je pense que pour bien créer, si on est dans un univers affectif positif, ça aide énormément.
Là, je te remercie, Claude. Ça fait vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup.
Vous dites que Nine était votre maman de cœur. Donc, vous êtes le frère de cœur de Véronique Culifort qui est dans ce
Absolument.
Studio. On va citer
Même
Thierry.
Si on hein, le... pas
Thierry, le frère, c'est un fait unique, je crois, dans l'histoire de la BD, que le fils reprenne l'œuvre de son père, dessinateur de BD. C'est Thierry Culifort qui signe les scénarios des bandes dessinées d'aujourd'hui, Véronique Culifort.
Oui, et déjà du temps du vivant de mon père, on travaillait tous les deux avec lui, enfin tous les trois avec maman, avec Nine. On travaillait déjà avec lui, donc il n'a pas pris cette décision comme d'autres auteurs, pour ne pas citer Hergé, en disant voilà, j'ai personne qui peut continuer l'œuvre derrière moi, donc mon personnage va s'éteindre en même temps que moi. Et mon père l'a dit dans des interviews, heureusement pour nous, il dit pour moi, il est hors de question que mon personnage disparaisse en même temps que moi, parce que ça continue. L'œuvre continue, les dessinateurs sont là, les scénaristes sont là, la famille est là. Donc, on poursuivra ce que j'ai entamé. Et j'espère qu'il peut être fier de nous, parce que voilà, ça fait quand même 30 ans que ça dure.
Moi,
maintenant.
Je crois qu'il est très fier de vous et de toi en particulier, Véronique.
Ah, merci encore, deux fois.
Et parmi ceux qui dessinent aujourd'hui les Schtroumpfs, il y a Antonello D'Alena. C'est lui qui signe cette petite série magnifique au Lombard Jeunesse, Grandir avec les Schtroumpfs, Véronique Culifort. Ce sont des formats plus petits, des histoires plus courtes pour apprendre aux plus petits à apprivoiser leurs émotions. Alors, il y a plusieurs tomes. Hein. Le Schtroumpf qui racontait des mensonges, le Schtroumpf qui jetait ses déchets n'importe où, le Schtroumpf qui trouvait tout injuste, le Schtroumpf qui était maladroit, le Schtroumpf qui voulait tout de suite. Ça, je connais un enfant à qui ça plairait pas mal. Avec l'appui d'une psychologue spécialiste de la petite enfance, Diane Drory. Ça, c'est une évolution très récente et très intéressante. Une utilisation des Schtroumpfs, Véronique Culifort.
Voilà, ça, c'est du ludo-éducatif. Mm-hmm. C'est vraiment autre chose. C'est un autre format. Et d'ailleurs, dans le dessin, c'est vraiment une autre façon de dessiner. Ce n'est plus le Schtroumpf de l'album classique. Mm. C'est un dessin qui est beaucoup plus adapté aux tout petits. Donc, plus haut en couleur, avec avec des ombres, avec des expressions dans les yeux, dans la bouche, qui sont beaucoup plus de notre temps, je veux dire, plus de ce que les enfants on recherche aujourd'hui dans une bande dessinée, surtout les tout petits. Et c'est plein de bon sens, ces histoires sont magnifiques, et le clin d'œil plus que ça de la psychologue est vraiment étonnant. Moi, j'adore ces petits bouquins.
Et pour les BD format classique, c'est Miguel Diaz qui signe le dessin, Thierry Culliford au scénario. Les Schtroumpfs et le vol des cigognes, édition Le Lombard, c'est le dernier tome, le tome 38. Il y en a un autre qui est attendu pour septembre 2021, voilà. Je crois. J'aimerais qu'on dise un dernier mot du langage des Schtroumpfs, leur façon de parler. C'est vraiment un sujet fascinant. On s'imagine que c'est facile de parler Schtroumpf, Véronique Culliford, qu'il suffit de remplacer n'importe quel mot par Schtroumpf. En réalité, pas du tout. Non. Il faut quand même qu'on comprenne.
Il faut se mettre dans le contexte de l'histoire pour comprendre ce qu'on veut dire, parce que le Schtroumpf, ça veut tout et rien dire. Mais ça peut être très blessant aussi pour celui qui le prend mal. Et j'ai appris dernièrement qu'un médecin prenait cette méthode de parler Schtroumpf pour aider les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, pour qu'ils réapprennent à parler et à se situer. Moi, mais j'étais toute chose, parce que je dis, c'est magique que ce mot Schtroumpf puisse servir à ça.
Je volerai Schtroumpf que Schtroumpf, lit-on notamment dans le Schtroumpf volant, qui est un très joli album aussi. Quel est votre emploi préféré du mot Schtroumpf, Dorib ?
Je ne sais pas, parce que moi je ne parle pas Schtroumpf au quotidien. Ce que je peux dire, c'est que je sais que Yvan Delporte et Peyot mettaient beaucoup de temps à fignoler les dialogues des Schtroumpfs. C'était très pointu, c'est pas aussi simple. Il faut vraiment savoir ce qu'on veut dire, comment on veut le dire, et pas casser l'esprit de la série. C'est une bande dessinée, c'est une histoire qu'on raconte, et il fallait qu'à travers le langage Schtroumpf, on comprenne l'histoire. Vous savez, je laisse à Peyot tout ça et à ses enfants. Moi, je suis dans mon univers avec mes propres personnages. C'est déjà assez compliqué
déjà beaucoup,
comme ça.
Il y a déjà beaucoup de monde dans votre tête, effectivement, de rire.
Absolument.
Mais il n'y a pas que les Schtroumpfs dans la vie, vous savez. On a ici, dans cette émission, Denis Chessot qui surveille de près la littérature jeunesse. On l'écoute et on se retrouve dans un court instant.
Dorothée Barbaz sur France Inter. Là, tu l'es, mon petit loup.
Merci Dorothée. Eh ben oui, c'est l'actualité du livre pour enfants qui commence par Jean et Nemo à l'aventure de Madalena Moniz aux éditions Helium à partir de 4 ans. Jean et Nemo se connaissent depuis très très longtemps.
Jean et Nemo sont amis depuis leur premier rêve.
S'ils savent tout l'un de l'autre, ils n'en demeurent pas moins très différents. Ou disons plutôt qu'ils sont très complémentaires.
Jean n'est pas très sûr de lui, Nemo est intrépide.
Depuis toujours, les deux garçons doivent beaucoup l'un à l'autre.
Jean aime les histoires d'aventure. Nemo vit les histoires que Jean lui raconte.
Ah, il faut dire que la vie de Nemo ne serait pas si intense sans la complicité de Jean, qui est bien souvent le cerveau de leur opération.
Jean manque de conviction, Nemo manque d'hésitation.
Jean admire le courage de Nemo.
Nemo est convaincu que Jean est aussi courageux que lui.
Ainsi, il n'y a jamais de compétition entre eux et leur soutien l'un envers l'autre est infaillible.
Parfois, Jean a peur, mais il reprend vite courage. Nemo n'abandonne jamais Jean.
Avec les autres, ce n'est pas une évidence.
Jean est timide.
Mais à deux, ils peuvent s'entourer plus facilement.
Nemo se fait tout le temps de nouveaux amis.
Ensemble, ils le savent, ils pourraient soulever des montagnes.
Jean est convaincu qu'à deux, tout est possible. Nemo a toute confiance en Jean.
À moins que Nemo ne soit pas celui que l'on croit. Alors Jean et Nemo à l'aventure, c'est un album en subtilité, dans sa façon de raconter comment l'imagination cultive la confiance en soi. Alors des illustrations éthérées à l'aquarelle qui nous plongent dans un univers digne du pays des merveilles, et un rêve à hauteur d'enfant où le héros s'invente un double qui l'oppose et qui l'entraîne dans une nature exceptionnelle. Ce livre invite au dépassement de soi, à puiser pour dénicher ses propres ressources, tout en cultivant son imaginaire par l'évasion et la culture. Jean et Nemo à l'aventure, Madalena Moniz, édition Helium, c'est à partir de 4 ans. Une carapace pour deux, d'Éric Sanvoisin et Delphine Jacquot aux éditions de l'étagère du bas, ça c'est pour les 5-7 ans. Du loufoque attirant dès le format de l'album qui s'ouvre à l'horizontale. Une tortue se plaisait beaucoup chez elle, mais la solitude lui pesait.
Il lui fallait quelqu'un pour lui tenir compagnie. Qui veut dormir sous ma carapace ?
Alors elle se décide et met sa maison en colocation. Pas de réponse au bout de 10 jours. Alors elle s'en va houspiller le facteur pigeon voyageur qui ne lui remet pas son courrier.
Mais c'est-à-dire que vous n'avez pas d'adresse fixe, hein. Vous bougez tout le temps. Comment voulez-vous que je vous retrouve? Bon, je vous donne votre lettre.
Il y a celle d'un éléphant qui ne veut plus dormir sous la pluie. Ah ça, dommage, mais sa carapace, elle n'est pas assez grande. Hein. Il y a aussi celle d'une fourmi.
Oui, mais une fourmi, ça travaille tout le temps, ça se lève tôt, ça se couche tard. Impossible.
La troisième lettre postée par un lièvre lui convient. Et puis, les souvenirs de la fable « Le lièvre et la tortue » sont bons pour elle.
Rien ne sert de courir, il faut partir à point.
Affaire conclue, même s'il dort le jour et vit la nuit.
Mais vite, elle déchante. Aucune nourriture ne se laissait plus approcher. Framboises, salades, pâquerettes rentraient dans leur abri anti-tortue. Elle ne pouvait plus rien avaler et s'endormait.
Maudit lièvre, tu es si bruyant que la nourriture m'entend arriver de très loin à présent. Allez, oust, finis la colocation.
Elle le sortit de la maison pour l'emmener endormi en forêt. Mais forêt égale...
Chien plus chasseur.
Donc de gros ennuis pour le lièvre.
Hop, demi-tour pour le rechercher, sinon jamais elle ne se le pardonnerait.
Alors, après explication, la fin est heureuse. On ne peut pas cohabiter avec tout le monde et faire carapace commune quand le mode de vie n'est pas le même. On peut se tromper, ne pas être d'accord, être exaspéré.
Mais ne pas mettre pour autant l'autre en danger.
La grande force de cet album repose sur les illustrations. Alors certes, texte rythmé, rebondissant avec humour absurde de Éric Sanvoisin, et donc assez évident pour les petits, mais avec la force de ses crayons de couleur, Delphine Jacquot nous offre des images vives, mariant les ruptures de plans qui ne lâchent pas le regard des enfants. Donc de la belle extravagance, une carapace pour deux aux éditions L'étagère du bas, c'est pour les 5-7 ans. Merci à Xavier Pestugia pour sa réalisation, à Lucie Cosmala, Eric Oswald, Denis Chessou. Nous vous souhaitons de belles lectures et maintenant place aux odeurs, Dorothée.
Merci beaucoup Denis Chessou. Toutes les références des livres ici cités sont à retrouver sur le site de France Inter à la rubrique « L'as-tu lu, mon petit loup ?». Il est temps de vous soumettre la question rituelle de cette émission, Véronique Culifort et Deribes. J'aimerais connaître l'odeur de votre enfance. Qui commence ? Véronique Culifort.
Allez, je me lance. Alors, il y a une odeur pour moi qui passe au-dessus de toutes les autres. Mmh. C'est l'odeur d'imprimerie. Voilà, c'est un petit
ça
peu...
Ça sent le schtroumpf.
Ça sent le schtroumpf, ça sent toute la BD. ça sent vraiment tous les albums. Ça sent le Yakari, le Buddy aussi. Parce que, en fait, la petite histoire, c'est que mon père était aux éditions Dupuis à l'époque. Et notre éditeur bien-aimé envoyait à chacun de ses dessinateurs... une ou deux fois par an, des caisses avec toute la production bande dessinée des éditions Dupuis. Donc on recevait des colis d'un grand... Dans ce colis, il y avait plein d'albums. Le fait d'ouvrir ces livres qui sortaient forcément de presse depuis peu, ça, c'est une odeur vraiment très spécifique. Et j'ai encore ce réflexe-là aujourd'hui. Quand il y a une nouveauté qui sort en schtroumpf, je prends l'album, je mets mon nez dedans.
Et alors, ça sent toujours la même odeur?
Ça sent toujours la même... C'est peut-être moins fort parce que les encres ont changé.
Ouais.
Mais c'est toujours la même odeur, c'est l'odeur de mon enfance.
C'est beau ça. Et vous, quelle est l'odeur de votre enfance, de Ribes?
Moi, c'est pas du tout la même chose. C'est des souvenirs de... Je suis un enfant de la fin de la guerre et mes parents m'ont monté au chalet qu'on avait à la Forclaz-sur-les-Audaires dans le canton du Valais. Et donc, moi, c'est l'odeur de l'herbe de haute montagne et la couleur du ciel bleu. Et je pense que j'ai passé les 5 premières années de ma vie dans la nature et c'est ça qui m'a formé aussi pour Yakari ou Buddy puisque c'est des histoires qui se déroulent en pleine nature. Et ce souvenir de l'herbe, quand je remonte là-haut, je sens cette odeur et la couleur du ciel joue un très grand rôle pour mon équilibre psychique.
Et on termine avec le bleu du ciel. Je crois que la boucle est bouclée là, de Ribes.
Voilà. Ah oui, le bleu, c'est pas volontaire. Hein.
Mais c'est bien dit.
L'odeur de l'herbe, l'odeur du ciel bleu et l'odeur de l'imprimerie, voilà, elles rejoignent la composition de notre parfum secret, celui de l'odeur de l'enfance. Merci beaucoup à tous les deux. Les BD des Schtroumpfs, à partir du tome 14, sont à lire aux éditions Le Lombard. L'album le plus récent, c'est Les Schtroumpfs et le vol des cigognes. Les tout premiers, un tome 1 à 13, sont toujours disponibles, bien sûr, chez Dupuis. Et notamment le Schtroumpfissime, auquel a participé de Ribes. Hilarante histoire de démocratie qui tourne très mal. Quant au dessin animé tout neuf, Les Schtroumpfs en 3D, il est à voir sur TF1 le dimanche matin dans l'émission T'es fou, tous les dimanches à 8h15. Je vous renvoie à notre site internet, hein, rubrique Barbatruc, pour plus d'infos et notamment sur l'œuvre pléthorique de Ribes, les bandes dessinées Yakari et Buddy Longuet, édition Le Lombard. Grand merci à vous deux et à bientôt sur France Inter.
Merci surtout
merci.
À vous. Merci de Rip.
Merci, bisous à toutes les deux.
Un gros bisou à toi aussi.